Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour vous présenter cette édition spéciale du journal de la Radio des Nations Unies pour cause de jours fériés. Une édition spéciale au cours de laquelle Yann Thomas, aux nombreuses casquettes d'enseignants mais aussi d'artistes observateurs auprès de l'ONU, évoque Human Energy, un projet qu'il n'hésite pas à qualifier de plus grande œuvre lumière participative jamais réalisée. Yann Thomas, bonjour.
Bonjour.
Yann Thomas, vous êtes artiste observateur à l'ONU et également donc, vous êtes en charge de West Lumière. Alors vous allez nous parler d'un projet, la plus grande œuvre lumière participative jamais réalisée. Alors de quoi s'agit-il ?
Alors il s'agit d'une œuvre qui s'intitule Human Energy. Human Energy parce que cette énergie qui est en nous, eh bien à certains moments nous oublions ses potentialités. Et j'ai voulu à un moment donné les faire émerger à travers un rendez-vous. Et mais il fallait pour ça trouver le rendez-vous. Après la Climate March de septembre dernier, et puis après avoir vécu l'Assemblée Générale de l'ONU, où je suis donc en effet artiste observateur depuis 2007, l'idée est venue immédiatement. Il fallait que j'arrive à réunir un maximum de personnes et d'énergie dans un point donné. Je l'avais déjà fait au moment de Dynamo Fukushima en 2011, où j'avais donné rendez-vous comme cela à près de 24 000 personnes qui ont pédalé pour les enfants de Fukushima, et ce qui avait permis d'ailleurs de dégager des financements par les ONG et de financer donc des fruits qui ont été distribués aux enfants de Fukushima. Des fruits parce que dans les fruits qu'on trouve dans l'ouest du Japon, il y a des molécules qui font baisser le césium-137 dans le corps des enfants. Et donc ça avait été un acte, si vous voulez, circulaire, où il y avait donc une action, une mobilisation à un endroit de la Terre, et puis ensuite, après cette grande générosité et ce don, cette mobilisation, il y avait donc une résurgence réelle. Donc pour Human Energy, je me suis dit que le seul lieu possible était la Tour Eiffel. Et donc, en revenant à Paris, j'ai tout fait pour essayer d'obtenir cette grande antenne et de la transformer en un lieu catalyseur et une vraie génératrice de mobilisation d'énergie humaine. C'est pour cela que j'ai tout de suite contacté, d'une part, la société de la Tour Eiffel, et puis après, la mairie de Paris, et ensuite l'État, et tous les partenaires aujourd'hui impliqués dans ces dispositifs au niveau local, je dirais en France. Et puis, en même temps, je me suis assuré du soutien de l'ONU, et des institutions onusiennes pour que le dispositif que je vais mettre en place soit en lien direct avec les endroits où l'on attend aujourd'hui des actions concrètes sur l'environnement. Ce qui fait que je suis vraiment mobilisé en ce moment pour réaliser cette œuvre.
Alors justement, quand on est artiste observateur, quand on est artiste tout court, quelle est la difficulté ? Est-ce que c'est celle de concevoir ou est-ce que c'est celle de persuader ?
La difficulté pour moi, elle est dans cet entre-deux, qui est entre la conception et la perception personnelle de la façon dont je dois convaincre les gens. Déjà, ce qui était très important, c'est que je sois moi-même convaincu. Pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est quelque chose qui peut-être me dépasse un peu, qui est peut-être trop énorme pour une seule personnalité. Et bon, il faut se dire aussi qu'on doit le faire à plusieurs. Et puis, le temps passant, je me suis rendu compte que j'avais accumulé une certaine expérience, une capacité aussi à engager des discussions avec des gens qui peuvent justement permettre ce genre de travail, et puis de résurgence comme ça, de forces qui sont en eux, mais ils ont besoin d'un déclencheur. Et il se trouve que j'ai des facultés justement de déclenchement. Donc j'ai suivi cette ligne, cette intuition. Comme disait Bachelard, c'est vraiment l'intuition de l'instant. J'ai suivi comme ça un flux. Et puis, les choses se sont déliées. Et aujourd'hui, vous voyez, je me retrouve avec ce projet qui est un projet phare de la COP21 et qui certainement m'amènera à aussi réussir un pari que je n'aurais jamais envisagé auparavant.
Alors, en termes donc, de conception, mais aussi en termes pragmatiques, en termes opérationnels, ça va consister en quoi ? D'abord, est-ce que, au-delà des autorisations avec la société d'exploitation de la Tour Eiffel et de la mairie de Paris, est-ce que déjà vous avez mobilisé ce corps important de bénévoles, de personnes qui vont pédaler pour justement donner corps à votre projet ?
Bien, c'est tout le souci en fait, qui aujourd'hui m'anime. En effet, j'ai besoin de mobiliser de nombreuses personnes, des gens qui sont de par le monde. Et donc, pour les mobiliser, il faut créer des vecteurs de liens. Donc, j'ai commencé à créer des communautés un peu partout. Il y en a une à Montréal, une qui s'organise aussi à New York, une autre qui s'organise au Bénin. Au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va se lier avec cette matrice générale, qui est donc celle de Human Energy, qui pourrait être localisée ailleurs qu'à Paris d'ailleurs, hein, parce que là on fait la COP21 à Paris, donc la Tour Eiffel est une antenne très logiquement. Hein. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les théories de Nikola Tesla sur l'énergie mutuelle. Tesla considérait qu'il fallait qu'on ait tous accès à une énergie gratuite, qui puisse se diffuser rapidement et qui puisse être une possibilité aussi d'acquérir des connaissances et de les partager. Et puis aussi d'avoir évidemment une qualité de vie. Parallèlement, moi, je suis très sensible aussi aux théories de Mesmer du XVIIIe siècle, qui disait que le magnétisme animal permettait à un moment donné, lorsqu'on est plus de 12 personnes réalisées dans un endroit, eh bien de sublimer les forces. Et donc, je crois beaucoup à la sublimation des forces à travers la réunion. Et donc, on le voit bien d'ailleurs quand il y a des matchs de football ou toutes sortes de manifestations sportives. Mais quand on est réunis autour d'un objectif, et aussi louable justement que le combat pour un climat qui soit acceptable pour la Terre et aussi une certaine forme de reconnaissance de la nature à travers aussi de nouveaux comportements que nous devons nous imposer, c'est l'idée quand même de vraiment nous transcender.
Alors justement, donc se transcender, il y a un appel qui a été lancé. Il faudra qu'il y ait en gros 20 000 personnes par jour pour participer à ce projet. Est-ce que ça veut dire que ce sont des touristes de la Tour Eiffel? Est-ce que ça veut dire que ce sont ces fameuses personnes que vous essayez de motiver de par le monde? Est-ce que c'est un public particulier?
En fait, tout le monde aura accès à cette œuvre Human Energy, de toutes les nationalités, toutes les générations, toutes les cadres socio-professionnels. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est que les gens viennent converger et donner leur énergie. On va leur permettre quand même de pouvoir donner cette énergie de différentes manières. Les gens vont pédaler, ils vont aussi danser. Il y aura des pas piézoélectriques qui récupéreront l'énergie. Il y aura également des dispositifs sportifs qui permettront aux gens qui vont courir, réaliser toutes sortes d'actions, et bien de récupérer leur énergie. Et puis, au-delà de ça, si vous voulez, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'énergie cérébrale. Donc, il y aura des dispositifs qui seront directement liés au Bourget, donc aux négociations qui auront lieu au Bourget, et à la société civile aussi, puisqu'il y a Solution COP21 qui aura lieu au Grand Palais, et puis dans toutes sortes de lieux où se mobiliseront les gens pour le climat. Donc, c'est l'idée aussi de profiter de ce grand rendez-vous pour mobiliser les forces. Et puis, force cérébrale, force, à mon avis, aussi artistique, hein, et une mobilisation de forces que nous avons en nous qui sont presque en sommeil. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de faire que les gens s'éveillent intérieurement.
Est-ce qu'il y a quand même des défis encore à relever? Bon, il y a bien sûr, on parle de décembre, lorsque la conférence donc, sur le climat se réunira. C'est quand même une période qui est un peu délicate en termes de climat et de météo à Paris. Oui. Est-ce que c'est un défi que vous prenez en compte?
Oui, absolument. C'est vrai que ce n'est pas forcément la période la plus propice pour mobiliser les gens. Mais justement, je trouve que c'est, paradoxalement, je pense que c'est vraiment aussi un facteur. On donnera rendez-vous au monde entier. Et justement, ce n'est pas pour uniquement vivre un moment collectif, je dirais, de détente et dans une atmosphère estivale. Là, ça sera vraiment un moment où on se mobilise et on vient pour quelque chose de très précis. D'ailleurs, comme à l'ONU, hein, venir à l'ONU pour, comme ça, en touriste, je trouve que c'est absolument sans intérêt, alors que si on y va pour une vraie raison, c'est très important. Mon ami Édouard Glissant, que j'ai eu la chance de connaître et qui était vraiment quelqu'un qui a compté dans la poésie et dans l'écriture, m'a transmis cette idée qu'il faut vraiment être présent et travailler sur le réel.
On parle des problèmes qui peuvent surgir. On souhaite bien sûr tout le succès à cette entreprise. Est-ce qu'il y a également d'autres défis? Est-ce qu'il y a un défi financier? Quel est d'abord le coût d'une telle opération? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à réunir?
Ah non, c'est vraiment très très délicat. Je dois dire que là, depuis plusieurs mois, j'ai beaucoup peiné parce que ça m'a remis en question énormément. Parce que quand vous êtes artiste, bon, moi j'ai la chance d'être dans la collection à Beaubourg, d'être dans des collections d'art contemporain, d'exposer dans des lieux très identifiés. Le problème, c'est que quand vous vous retrouvez dans ce type de contexte, c'est facile. Mais si vous vous retrouvez à porter ce que habituellement les musées portent, ça devient beaucoup plus délicat. Et donc, si vous voulez, je me suis retrouvé avec un défi. c'était celui de mettre en œuvre un chantier avec une maîtrise d'œuvre, des architectes, des graphistes, des gens qui viennent, qui vont être apporteurs de projets, donc qui vont se connecter avec des entreprises, trouver des entreprises, choisir les bonnes entreprises aussi qui vont s'impliquer, ce qui n'est pas facile, mettre en œuvre tout un dispositif qui va aussi permettre ces investissements. Donc tout ça, c'est très délicat. Et donc du coup, je me suis entouré d'amis et de gens de confiance qui m'aident aujourd'hui à développer ce magnifique projet, notamment à travers l'association des Amis d'Ouest Lumière, qui donc est l'association qui porte la production. Je pense à Véronique Wissinger, par exemple, qui est présidente de l'association, qui est une grande dame de l'art contemporain. Je pense évidemment à Alexandra Dubas, qui aujourd'hui m'accompagne à l'ONU. Enfin, c'est très, très important pour moi d'être entouré autant de jeunes, des jeunes comme les architectes d'Artel, qui viennent de Camondo, ils sortent tout juste de Camondo, ils arrivent comme ça avec toute une fraîcheur et puis des propositions très intéressantes, ou des jeunes comme Julie Mikavichian, qui est donc aussi qui accompagne ce dispositif, ou même Mona Prudhomme. Enfin, j'ai comme ça des amis qui sont venus s'agréger et puis m'apporter avec leur énergie, Ariane Rousselier au community management. Enfin, et puis des pros de toutes sortes qui donnent aussi leur contribution. Donc maintenant, c'est que tout se canalise et tout vient pour me soutenir. Alors qu'à un moment donné, j'étais très, très sceptique. Je me suis dit, je ne vais jamais réussir à passer ce cap aussi. Mais ce qui m'intéresserait aujourd'hui, si vous voulez, c'est non seulement d'arriver à boucler, évidemment, le budget de cette œuvre, ce qui est bien parti, je pense, on y arrivera, mais aussi de trouver des financements au préalable pour que toute l'énergie accumulée par les gens servent à quelque chose.
Le budget, on parle de combien? De millions, de centaines de milliers d'euros?
Alors, on est dans plusieurs centaines de milliers d'euros, je dirais en matériel. On va faire venir des containers, il y a à peu près 12-14 containers qui vont permettre d'avoir des installations qui vont ensuite donc être en lien avec les vélos, tout le dispositif des papillons électriques, les dispositifs centraux aussi de sport. Et puis, il y a la grande antenne qui va être en connexion avec la tour Eiffel. Il y a des installations aussi qui vont servir à permettre aux gens de tenir. Il va falloir que les gens soient chauffés, mais c'est par des éoliennes, tout est à énergie positive. Et c'est ça qui est un grand défi, si vous voulez, c'est que tout doit être à énergie positive. Donc, les matériaux qu'on utilise à chaque fois doivent être vertueux, ne doivent pas gâcher l'énergie que les gens vont produire. Et cette énergie va devoir être accumulée et elle permettra uniquement d'éclairer la tour Eiffel pendant 60 minutes. Donc c'est un défi aussi. C'est-à-dire que les gens, de 10h à 1h du matin, vont pédaler sans arrêt et ça sera pour 60 minutes d'éclairement. Et ça, c'est assez incroyable. Et alors donc, vous avez des EA, des unités d'énergie artistique, j'avais déjà un peu inauguré dans différentes occasions. Et ces EA, unités d'énergie artistique, vont permettre aussi aux gens de comprendre que quand ils pédalent, quand ils se bougent pour le monde, eh bien, en fait, ça a une incidence aussi sur le terrain en Afrique. C'est-à-dire en Amazonie, ou au Groenland, ou dans des endroits où justement le climat est en danger. Et puis évidemment aussi à l'endroit où il se dépense également. Il faut que ces dépenses ne soient pas uniquement un apport symbolique, mais il faut aussi que ça ait une incidence. Donc dès qu'il y aura à peu près 100 millions d'EA accumulés par les coups de pédale, ces coups de pédale qui seront connectés aussi à une application iPhone ou de smartphone, donc qui sera un peu partout dans le monde, et ben, toute cette énergie accumulée par les gens qui seront en mouvement de par le monde et sous la tour Eiffel va permettre d'arriver à un chiffre, à un quota. Et dès qu'on aura 100 millions d'EA, ça représente par exemple 50 conteneurs équipés d'électrification pour des destinations qui sont identifiées par l'ONU.
On pourrait en parler bien longtemps.
Ah bah oui, ça je suis passionné.
Et intarissable. Dernière question justement, les prochaines étapes en gros, en résumant, les prochaines étapes par rapport donc à cet événement. Donc d'abord on rappelle l'événement lui-même, c'est donc en décembre.
Du 5 au 12 décembre, du 5 à 0h au 12 décembre à minuit.
Et appel à tout le monde pour participer, tout le monde est le bienvenu.
Le monde entier est le bienvenu, c'est totalement gratuit. Il y aura des agents de Human Energy qui seront là à vous attendre, à vous aider, à vous motiver. Il y aura toutes sortes de personnalités qui seront présentes. On fera venir le monde entier et Ban Ki-moon viendra pédaler aussi, tout le monde va venir pédaler.
Est-ce qu'il y a un site internet également sur lequel les gens peuvent se renseigner?
Absolument, oui, c'est www.human.humanenergy.fr.
Bonne chance.
Merci.
Voilà, fin de cette édition spéciale du Journal de la Radio des Nations Unies à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine, on se retrouve lundi, même heure, même fréquence.